Ce matin, j'ai le privilège et la lourde charge en même temps de nous permettre de revenir à notre série de prédications dans le livre de Matthieu. Après avoir fait une pause pendant le temps de décembre, pendant le temps de l'Avent, pendant le culte d'action de grâce de la fin de l'année et du début de l'année, nous voulons ce matin reprendre à partir de ce dimanche-là les séries de prédications dans l'évangile de Matthieu. Donc, nous allons ce matin reprendre avec cela. Et juste avant, pendant cette semaine, pendant que je préparais la réflexion biblique de ce matin, j'étais beaucoup touché par une portion de l'histoire de l'Église. Et en survolant un peu l'histoire de l'Église, l'histoire de certaines dénominations, voilà. J'ai été frappé particulièrement par, je ne vais pas citer le nom de la congrégation, mais j'ai été frappé par comment est-ce que Dieu a conduit cette Église, et même un leader influent de cette Église-là. Et après, ce qui s'est passé par la suite, il y a eu une scission, parce que un des leaders était en opposition avec un autre, et puis ça a créé une scission. Et je me suis vraiment posé la question de savoir, mais on a l'impression que l'histoire se répète au fil des années. Ces personnes qui étaient des bénédictions pour l'Église, comment à un certain moment de leur évolution sont devenues, je veux dire, inconsciemment ou non, des pierres d'achoppement pour le troupeau. Et ce matin, j'aimerais nous inviter sans plus tarder à découvrir ce texte qui va nous ramener, qui va nous replonger dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 9, les versets 35 à 38. Matthieu, chapitre 9, nous allons lire les versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. » Ce texte est le texte qui va animer notre réflexion biblique de ce matin et en même temps qui va nous replonger dans notre série de prédications dans le livre de Matthieu. J'aime bien ce texte parce que ce texte est un texte qui m'a beaucoup parlé pendant que j'étais étudiant. En préparant ce message, je me suis replongé 13 années en arrière, alors que j'étais un étudiant et que j'étais assis là à l'Assemblée, dans l'Assemblée, et que j'écoutais des aînés en train de prêcher sur ce texte. Je vais juste ramener le contexte dans lequel le Seigneur a inspiré Matthieu à écrire ces mots. Le contexte, un peu, qu'on peut retrouver, on l'a vu pendant le temps de Noël, où effectivement, Matthieu a rappelé que les prophètes avaient annoncé que le Messie allait naître. Et il commence en présentant Jésus comme étant le fils d'Abraham et le fils de David. Les chapitres 1, 2 nous montrent effectivement que ce Messie-là, il est né, et c'est Jésus, et qu'il est venu. Et par la suite, Matthieu nous présente un peu comment est-ce que Dieu a miraculeusement protégé Jésus alors qu'il était encore enfant en allant en Égypte et puis en revenant. À partir du chapitre 4, il nous présente le baptême de Jésus, comment est-ce que Jésus passe par les eaux du baptême, et c'est Jean-Baptiste qu'il utilise pour son baptême. Et après, il nous montre la victoire que Jésus a face à la tentation lorsqu'il est entraîné dans le désert dans Matthieu 4. Et à la fin, Jésus commence à prêcher en public tout en invitant ses premiers disciples à le suivre. Il dit « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et à l'endroit de ses premiers disciples, les quatre amis, collaborateurs qui étaient des pêcheurs, il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Par la suite, à partir du chapitre 5, Jésus commence à enseigner le sermon qu'on appelle généralement le sermon sur la montagne, donc Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7, où Jésus enseigne les lois du royaume, où il enseigne les béatitudes, il enseigne plusieurs choses sur le royaume de Dieu. Et par la suite, les versets qui nous intéressent, à partir du chapitre 8 et le chapitre 9, Jésus commence à proclamer et à manifester le royaume de Dieu. On les voit, les chapitres 8, les chapitres 9, on voit comment est-ce que Jésus proclame le royaume de Dieu. Et il proclame ce royaume de Dieu en manifestant, je veux dire une certaine puissance, en manifestant le royaume de Dieu. On voit tout cela dans les chapitres 8 et chapitre 9. Par la suite, on se rend bien compte que, en proclamant le royaume de Dieu, on voit bien que Jésus possède une pleine autorité. Au chapitre 8, on voit comment est-ce que Jésus, je veux dire, il a une autorité sur la nature. Il maîtrise, il calme la tempête. On voit par la suite que Jésus a une autorité sur les maladies. Il y a plusieurs guérisons qui sont multiples et diverses. Jésus guérit les personnes qui sont malades. Jésus guérit les personnes qui ont des situations qui ont des problèmes de santé réels. Et Jésus apporte une guérison à toutes ces personnes-là. Quand on continue à lire le chapitre 8 et le chapitre 9, on se rend compte également que Jésus possède une pleine autorité sur le mal. Plusieurs fois, on a plusieurs récits où on voit que Jésus, effectivement, il délivre des personnes qui étaient possédées par des démons. On voit comment Jésus délivre des personnes qui étaient possédées par des démons. Pas plus tard que quelques chapitres avant le verset 35 du chapitre 9, on voit qu'il y a une personne qui était muette à cause d'un démon et Jésus délivre cette personne-là. On voit aussi, avec l'épisode de Gadara, comment est-ce que Jésus a autorité sur les démons et il libère des personnes qui étaient sous la domination de plusieurs puissances démoniaques. Et aussi, ces chapitres nous permettent de voir que Jésus possède une pleine autorité sur la mort. On a l'épisode de cette fillette qui était morte et son papa vient voir Jésus. Et Jésus va à la rencontre, je veux dire, de cette fillette. Et lorsque Jésus arrive, les gens se moquent de lui parce qu'il dit que la fillette n'est pas morte, elle dort. Les chanteurs étaient là, les pleureuses étaient là, ils se moquaient de Jésus. Et Jésus a pris cette petite fille et il l'a relevée, il l'a ramenée à la vie. On voit aussi que Jésus possède une pleine autorité sur la mort. En plus de cela, on voit bien que Jésus, il pardonne les péchés et il purifie les lépreux. Les chapitres 8 et 9 nous permettent vraiment de voir que Jésus possède une pleine autorité sur le mal, sur le péché, sur les maladies, sur les puissances des ténèbres. Je veux dire, rien n'arrive à résister. Il pardonne les péchés et il purifie. Ce n'est pas la fin de la présentation de ce tableau dans le contexte. On est frappé par la suite parce qu'on se rend compte que malgré tout ce que Jésus fait, malgré la proclamation du royaume de Dieu, malgré la puissance que Jésus manifeste pour délivrer, pour faire du bien à toutes ces personnes vers qui il allait, pour faire du bien à toutes ces personnes qui venaient à lui, on est étonné de la réaction des responsables religieux qui, au lieu de se réjouir de ce que Jésus apportait la bonne nouvelle, au lieu de se réjouir de ce que Jésus guérissait les malades, au lieu de se réjouir de ce que Jésus faisait du bien aux brebis, faisait du bien au peuple, partout où il allait, on se rend compte que les chefs, les responsables religieux, au contraire, ne se réjouissent pas. Ils sont mécontents. Ils accusent Jésus. Ils traitent Jésus d'ami des pécheurs. Ils le rejettent, ils sont mécontents. Ils rejettent Jésus et ils disent à Jésus que tu blasphèmes. Et en plus de cela, ils disent à Jésus qu'en fait, c'est par le prince des démons que tu chasses les démons. La suite du texte, on voit que Jésus, il compatit aux souffrances des brebis. Il compatit aux souffrances des brebis qui se retrouvent sans berger. Et par la suite, il appelle 12 apôtres à faire le même travail que lui, à marcher à sa suite. Chapitre 9 et chapitre 10. J'ai essayé de condenser un peu le contexte. On voit un Jésus qui est plein d'autorité. On voit un Jésus qui est tout puissant. On voit un Jésus qui maîtrise, qui a une pleine autorité sur la nature. Il a une pleine autorité sur les maladies. Il a une pleine autorité sur le mal. Il a une pleine autorité sur la mort. Rien ne lui résiste. Il fait du bien partout où il passe. Il est pris de compassion pour les populations. Il est pris de pitié pour les personnes qu'il rencontre. Mais malgré cela, les responsables religieux, les bergers du peuple, qui devaient normalement se réjouir du bien qui est fait au peuple, au contraire, sont mécontents et ils rejettent Jésus. Ils disent à Jésus qu'il blasphème, ils refusent de croire en Jésus, ils traitent Jésus de celui qui vit ou celui qui aime la compagnie des pécheurs. Ils disent à Jésus qu'en fait, c'est par la puissance du chef des démons qui chasse les démons. Et c'est intéressant de voir la réponse de Jésus. En réalité, ce sont les personnes qui sont mal portantes qui ont besoin de médecins. Ce sont les personnes qui se reconnaissent dans le péché qui ont besoin de salut. Revenons maintenant au texte qui nous intéresse ce matin. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est intéressant de voir dans ce texte la dynamique de Jésus. La première chose qui m'a frappé en lisant ce texte, c'est en regardant un peu le temps que Matthieu utilise dans la conjugaison. Il utilise l'imparfait. Et j'ai regardé un peu mes cours de conjugaison, un peu comme à l'école primaire. Une des choses qui m'a frappé, c'est que l'imparfait de l'indicatif, c'est un temps passé qui est utilisé pour exprimer une habitude. Il permet aussi de faire une description, mais c'est le côté, ça exprime une habitude. Et dans le texte, on dit que Jésus parcourait toutes les villes. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait, il guérissait. Donc c'était son habitude, il prenait plaisir en cela. Ce n'était pas des choses ponctuelles, mais c'était une habitude que Jésus avait. Décrivons un peu l'action ou bien l'action de Jésus dans le texte. Voici ce que Jésus fait. Le texte nous dit qu'il parcourait. Jésus parcourait. Il visitait régulièrement. Il allait dans tous les villages et toutes les villes. Je me suis dit, à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Hein. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Mais Jésus visitait, Jésus parcourait, Jésus allait dans les villages, dans tous les villages, dans toutes les villes. Il allait à pied pour visiter. Il allait à pied pour visiter les villes, pour visiter les villages, pour aller à la rencontre de ces personnes-là. Il le faisait régulièrement. C'était son habitude, ce n'était pas une action ponctuelle, mais il le faisait régulièrement. Jésus parcourait les villes et les villages. Jésus prenait plaisir à parcourir, à visiter, à aller à la rencontre des personnes. Et Jésus le faisait parce qu'il aimait ces personnes. Jésus le faisait par amour pour ces personnes. Jésus le faisait parce qu'il aimait ces personnes. Et je me suis amusé un peu à regarder sur Internet pour voir un peu quelles sont les villes ou bien les villages que Jésus a visités. Et je dis bien, à l'époque, il n'y avait pas de voiture comme nous aujourd'hui ou des avions. Ça, c'est les régions où Jésus a vécu et enseigné. Donc, il y a une bonne partie des villes dans lesquelles Jésus est parti. Et en faisant un peu des recherches par rapport à ça, il y a plus de 50 villes et villages dans lesquels Jésus est parti pour aller à la rencontre des personnes. Plus de 50 villes et villages que Jésus a visités pour aller à la rencontre des personnes. Plus de 50 villes et villages. Il y a des personnes qui aiment voyager. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment voyager? Parce que tu as déjà visité combien de villes ou de pays? Au moins une vingtaine. À pied, par quel moyen de locomotion? En avion. OK. Plus d'une vingtaine en avion, oui. Oui. Plus d'une vingtaine par avion et à pied. Oui, Léandro. À quelque, à peu près. À pied, en avion. Mais Jésus a visité, je veux dire, plus de 50 villes et villages. Et à son époque, je veux dire, le moyen de locomotion qui était attitré, c'était la BMW pied. Vous connaissez? La BMW pied. C'était la voiture de choix à l'époque. Et j'imagine les efforts fournis pour aller visiter. J'imagine le temps pris pour aller visiter ces personnes, pour aller rendre visite à ces personnes, pour aller exprimer son amour à l'endroit de ces personnes. On dit Jésus parcourait, il le faisait régulièrement, des villes et des villages. C'était une expression de son amour pour ces personnes. La deuxième chose que le texte nous dit par rapport à ce que Jésus faisait régulièrement, c'est qu'il enseignait et il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il enseignait et il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Partout où il allait, il proclamait l'amour de Dieu. Il proclamait l'amour de Dieu. Il proclamait que Dieu aimait ces personnes. Et il exprimait cela au travers de ce qu'il accomplissait. Les actes de compassion, les œuvres de compassion, l'attention. Il a juste condensé quelques miracles. Mais lorsque Jésus arrivait devant des foules qui avaient faim, Jésus ne disait pas « allez-y vous chauffer ». Jésus nourrissait physiquement ces personnes. Lorsqu'il arrivait face à des personnes qui avaient des maladies, Jésus était pris de compassion pour ces personnes. Et il priait pour que ces personnes puissent retrouver la guérison. Il était pris de compassion et il enseignait et il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il proclamait la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Il proclamait la bonne nouvelle que le pardon des péchés est possible parce que Dieu nous aime et qu'il a envoyé effectivement Jésus pour ôter les péchés du monde. Il proclamait la bonne nouvelle que la réconciliation avec Dieu est possible grâce à lui, Jésus. Il allait pour annoncer cette bonne nouvelle partout où il allait. Et il le faisait régulièrement. Il le faisait dans les maisons de prière, dans les synagogues. Il le faisait partout où il allait, dans les villages, dans les villes. Il allait proclamer cette bonne nouvelle. Et le texte continue en lui disant que Jésus aussi, pendant qu'il allait proclamer cette bonne nouvelle, pendant qu'il était en train d'annoncer le royaume de Dieu, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et quand on voit les différentes guérisons, c'était des maladies, des infirmités physiques, émotionnelles, spirituelles, sans aucune restriction. Jésus apportait la guérison aux personnes, que ce soit les maladies physiques, que ce soit les maladies spirituelles, que ce soit les maladies émotionnelles. Jésus, dans sa grâce, Jésus, dans son amour, apportait la guérison aux différentes personnes qu'il rencontrait alors qu'il allait pour proclamer l'amour de Dieu. Il le faisait régulièrement. C'était son habitude. Et pendant qu'il était en train d'aller pour aller rendre visite, pendant qu'il était en train d'aller pour aller proclamer le royaume de Dieu, pendant qu'il était en train d'aller en guérissant les personnes, Jésus regardait également. C'est intéressant de voir les différents verbes qui sont utilisés et surtout, je veux dire, les organes de sens qui sont mis en avant. Le toucher, la vue, pendant qu'il allait proclamer l'amour de Dieu, pendant qu'il allait pour aller visiter les personnes, pendant qu'il allait en apportant la guérison, pendant qu'il allait pour annoncer l'amour de Dieu, Jésus voyait les foules. Jésus voyait des gens. Il se rendait compte que des personnes étaient fatiguées, que les personnes étaient découragées. Il se rendait compte que des personnes étaient désespérées. Il se rendait compte que des personnes étaient sans espoir. Il se rendait compte, il voyait. Il voit les foules languissantes, elles sont abattues, elles sont inquiètes, elles sont découragées, elles sont désespérées. Jésus voyait cela. Et quelle était la réaction de Jésus lorsqu'il voyait cela? Est-ce qu'il était insensible? Est-ce qu'il disait, bon, voilà. Quelle était la réaction de Jésus? Le texte nous dit que Jésus, son cœur était rempli de pitié, de compassion pour ses foules. Lorsque Jésus rencontrait des personnes qui souffraient, lorsqu'il rencontrait des personnes qui étaient languissantes, qui étaient abattues, Jésus était pris de compassion pour ces personnes. Il était pris de pitié pour ces personnes. Il compatissait avec ces personnes. Chez mes beaux-parents en Côte d'Ivoire, on dit « Yako, je compatis ». Dans son contexte, Jésus disait « Yako » aux gens. Mais ce n'était pas juste un « Yako » dans la bouche. Mais ça se voyait aussi dans son amour et dans ses actions à l'endroit de ces personnes-là. Son cœur est rempli de pitié. Lorsqu'il voit ces personnes, son cœur est rempli de compassion. Il se rend compte que ces foules ressemblent à des brebis qui sont sans berger. Il se rend compte que ces foules ressemblent à des personnes qui n'ont aucun guide. Il se rend compte que ces foules sont abattues, sont découragées, sont oppressées, n'ont aucun espoir, sont désespérées. Et il n'est pas insensible à cela. Jésus est sensible face à cela. Et il s'adresse à ses disciples en demandant au maître de la moisson, en demandant à ses disciples de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quelques questions que je me suis posées en lisant ce texte. La première est la suivante. Quand Jésus fait le constat que ces foules ressemblent à des brebis sans berger, mais où étaient les bergers qui étaient censés prendre soin de ces brebis? Où étaient les bergers qui étaient censés prendre soin de ces brebis? Où étaient les personnes qui sont des bergers délégués, à qui Dieu a donné, a confié la responsabilité de prendre soin de ces différents peuples, de ces différentes foules? Ils étaient où, les bergers à cette époque en Israël? Ils étaient où face à ces foules languissantes? Ils étaient où face à ces foules abattues? Ils étaient où face à ces foules oppressées? Ils étaient où face à ces foules désespérées? Ils étaient où, les bergers? Les bergers en Israël à cette époque ressemblent un peu à ce que le prophète Ézéchiel a dit dans Ézéchiel 34, où des bergers à qui on a confié le troupeau, au lieu de prendre soin du troupeau, ils profitent du troupeau, eux-mêmes ils s'engraissent alors que le troupeau est en train de mourir. Le troupeau est là et confie entre les mains des bergers, mais les bergers s'engraissent et les troupeaux se meurent. On le verra par la suite, Jésus en parle, surtout des pharisiens, dans Matthieu 23, où il remet en cause leur hypocrisie, où il remet en cause les pharisiens, les scribes, qui sont les bergers qui devaient conduire le peuple, qui devaient orienter le peuple, qui devaient diriger le peuple. Mais ils abusaient du peuple. Peut-être que les bergers eux-mêmes avaient des soucis. Peut-être que les bergers eux-mêmes avaient besoin aussi de salut. Peut-être que les bergers eux-mêmes avaient besoin de repos. Mais où étaient les bergers face à ce peuple, face à ces brebis qui sont sans berger? La deuxième question que j'avais envie de nous poser ce matin, c'est la suivante. Quand on regarde avec nos yeux la Tunisie, quand on regarde ce pays, quand on regarde les quartiers dans lesquels on vit, quand on regarde nos universités, qu'est-ce qu'on voit? Que voyons-nous? Quand on regarde la jeunesse de ce pays, que voyons-nous? Que voyons-nous? Et ce que nous voyons, qu'est-ce que cela suscite dans nos cœurs? D'abord, est-ce que nous regardons, comme Jésus dans le texte, ou non, nous ne regardons pas du tout? Et si nous regardons, qu'est-ce que nous voyons? Et par rapport à ce que nous voyons, qu'est-ce que cela suscite dans nos cœurs? De l'indifférence? Ce n'est pas mon pays, ça ne me dit rien du tout. De toutes les façons, ils ne sont pas gentils avec moi. Ils sont racistes, je vais aussi être raciste. D'ailleurs, j'ai envie de rapidement quitter ce pays parce que j'en ai marre. Regardez la situation du pays au niveau politique, c'est compliqué. Au niveau économique, c'est compliqué. C'est le chômage, c'est l'inflation. Même le lait, on n'arrive pas à trouver dans ce pays. C'est difficile d'avoir de l'argent. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ce pays? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde autour de nous? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? J'aimerais terminer notre réflexion biblique de ce matin par cette application en revenant à notre contexte tunisien. Jésus termine en disant que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Tout à l'heure, en introduction, j'ai brièvement présenté un peu quelques villes dans lesquelles on retrouve certains étudiants. Si tu peux juste revenir sur la carte, s'il te plaît. Ils sont à Siliana. Je cite certaines villes dans lesquelles les étudiants n'ont pas d'église, n'ont pas la grâce d'avoir des aînés. Certains sont à Siliana, d'autres sont à Djendouba, d'autres sont à Madia, d'autres sont dans des villes dans lesquelles, je veux dire, ils n'ont pas la grâce d'avoir une église. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir des aînés. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir des personnes avec qui ils peuvent grandir avec le Seigneur. Ils n'ont pas cette possibilité de vivre une vie d'église. Quand on regarde à cela, qu'est-ce que cela suscite dans nos cœurs? Le temps me manque pour citer les frères dans la foi qui se retrouvent dans certaines de ces villes, mais qui sont totalement isolés et qui n'ont pas de communion fraternelle, qui n'ont pas la grâce de vivre cette communion fraternelle. Quand on voit cela, qu'est-ce que cela suscite dans nos cœurs? Le temps me manque de citer les défis qu'on a. Par exemple, on a fait une offrande d'action sociale il y a quelques semaines par rapport aux personnes qui sont en situation de refuge dans ce pays. Quand on voit cela, qu'est-ce que cela suscite dans nos cœurs? Si on quitte la Tunisie, on revient juste dans notre contexte à Tunis. Quand on regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que cela suscite dans nos cœurs? Si on revient encore à Tunis, on resterait encore à notre famille ici à Tunis. Quand on voit l'Assemblée, quand on voit notre Église, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Et qu'est-ce que cela suscite dans nos cœurs? Est-ce qu'on se voit juste en se disant, mais bon, ce n'est pas mon Église, je suis juste de passage? Ou est-ce qu'on voit des besoins? Ou est-ce qu'on voit des choses? Ou est-ce qu'on voit des personnes qui ont besoin des dons et des talents que Dieu a mis en nous, qu'on veut, on peut mettre au service de ces brebis qui ressemblent, comme dans le texte, à ces brebis qui sont languissantes, fatiguées, affamées, qui ont besoin d'une personne pour les conduire vers le bon berger. Qu'est-ce que nous voyons? Et qu'est-ce que cela suscite dans nos cœurs? Le temps me manque, mais je veux terminer avec ceci. Peut-être que pour toi, tu vas te dire, mais avant de voir les besoins, mais moi-même d'abord, je suis une brebis qui semble être sans berger. Je suis une brebis qui suis, je suis fatigué, je suis abattu, je suis découragé, je suis sans espoir. Mais j'ai d'abord besoin moi-même d'avoir de l'espoir, de l'espérance pour prétendre apporter de l'espérance et de l'espoir aux autres. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que le maître de la moisson qui est Jésus, il a tout pouvoir et il est plein de compassion. Il nous invite à recevoir sa grâce et à le rejoindre dans sa moisson pour participer à sa gloire. Peut-être que tu es fatigué et que tu es abattu ce matin. Peut-être que tu es sans espoir. Peut-être que tu es sous le poids du péché et tu te dis, mais j'ai du mal à avancer. Je suis abattu, je suis accablé, je suis peiné. Je suis sans espérance. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que le maître de la moisson, Jésus, il est celui qui a tout pouvoir. Et il est celui qui est plein de compassion pour toi. Il n'est pas insensible à ce que tu vis. Et il t'invite ce matin à mettre ta foi en lui. Il t'invite ce matin à te tourner vers lui pour recevoir sa grâce parce qu'il t'aime. Ce Seigneur Tout-Puissant, le Maître de la moisson. Je n'ai pas le temps de toucher ça, de toucher l'humour de Dieu. Il demande aux disciples de prier le Maître de la moisson. Et puis, quelques versets plus tard, ce sont ces mêmes disciples qui ont prié, qu'il associe à sa moisson. Mais si tu es là ce matin et que tu te sens abattu, si tu es là ce matin et que tu te sens abandonné, si tu es là ce matin, que tu te sens sans force, si tu es là ce matin, tu te sens accablé par le poids du péché, par le poids de la servitude dans ta vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le maître de la moisson, il a tout pouvoir et il t'invite dans sa grâce à recevoir son amour, à recevoir son salut parce qu'il t'aime et il est pris de compassion pour toi parce qu'il t'aime et il t'invite en te disant, vous tous qui avait des fardeaux lourds. Venez, venez, venez à moi. Ce Dieu qui est le maître de la moisson est plein de compassion, est plein de tendresse, est plein d'amour pour toi et il t'invite à recevoir sa grâce et à marcher dans la liberté et la paix qu'il apporte. Mais peut-être que toi, tu es déjà, tu te dis, je suis une brebis. Je sais que je suis en train de marcher avec le bon berger. Mais il t'invite aussi, dans sa grâce, à pouvoir le rejoindre dans la prière pour qu'il y ait plus d'ouvriers dans sa moisson. Mais aussi, il t'invite, toi aussi, à pouvoir le rejoindre pour prendre soin de ces brebis qui, dans ce pays, ressemble à ces brebis qui sont sans berger, qui sont sans berger, ces brebis qui se perdent, ces brebis qui languissent sous le poids du péché, ces brebis qui languissent sous le poids du désespoir, ces brebis qui languissent sous le poids du découragement, qui ne savent pas où trouver de l'espoir, alors que l'espoir se trouve dans le bon berger qui est Jésus. Il t'invite à te joindre à lui pour aller vers ces personnes-là, pour proclamer la bonne nouvelle que le salut est possible grâce à Jésus.